le micro du soir à Ichla RFI.
Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Alexandru Aldea, professeur à l'Université Technique de Construction de Bucarest et président du Sénat universitaire. Docteur en génie civil, spécialiste de la fiabilité des structures et du génie parasismique. Alexandru Aldea est l'un des experts de l'État roumain pour les réglementations nationales dans le secteur de la construction. Avec lui, nous allons donc parler de fiabilité des constructions, notamment face aux risques sismiques. Alexandru Aldea, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour l'introduction. Je voulais mentionner que peut-être votre appellation un des experts de l'État roumain pour les réglementations nationales dans le secteur de la construction est un peu excessive, flattante. C'est vrai que notre université, l'Université technique de construction de Bucarest, a été en charge au fil du temps pour la majorité des réglementations dans le domaine. Mais dans mon cas, moi j'ai fait partie seulement des collectifs qui ont élaboré les réglementations qui touchent à un sujet assez spécifique, l'aléa naturel, les phénomènes naturels à prendre en considération dans la conception des structures, et plus précisément le séisme, le vent et la neige.
Mais je suis sûr que votre voix a été très écoutée de toute façon. Merci de cette précision, Alexandru Aldea. On va commencer par ce tremblement de terre qui a été enregistré mi-septembre, lundi 16 septembre à 17h40 exactement dans la zone sismique de Vrančea, d'une intensité de 5,2 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti jusqu'à Bucarest. C'est le séisme le plus important de cette année, après celui de début août, d'une magnitude de 4,4. En préparant cet entretien, vous m'expliquiez qu'il y avait grosso modo deux théories. L'une affirmant qu'une succession de petits séismes empêchait plutôt le déclenchement d'un tremblement de terre beaucoup plus fort, et une autre théorie qui dit que tout peut arriver. Le séisme de 1977 d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter avait fait près de 1600 victimes, dont près de 1400 à Bucarest. Aujourd'hui, quels seraient les dégâts d'un tel séisme? Mais avant de répondre à cette question, faites-nous un petit rappel de ce que vous me disiez, donc du fait que voilà, il y a plusieurs petits séismes qui permettent de décharger une certaine énergie, mais certains disent que ça ne nous protège pas d'un grand tremblement de terre.
Oui, en fait, on n'a pas vraiment de certitude dans cette direction, et autour du monde, les sismologues surveille tout ce qui se passe, et il y a des exemples dans les deux sens. Donc les deux théories ont été prouvées par des situations réelles, et oui, parfois les petits séismes permettent à la nature de trouver rapidement un équilibre et de délibérer l'énergie qui s'accumule dans les plaques tectoniques, mais d'autres fois, même si nous on n'arrive pas à l'identifier précisément, ça peut perturber des choses à l'intérieur de la Terre et faciliter l'apparition d'un
de futurs séismes.
Ouais. Moi, je suis ingénieur génie civil, donc pas un sismologue de formation, et j'ai vu dans la littérature qu'il y a ces deux
théories.
Mais en général, là-bas où on a des séismes, Il y en aura encore des séismes, et parfois même
encore plus fort que celui de lundi, lundi 16 septembre. Aujourd'hui, un séisme comme celui de 77 à Bucarest, vous connaissez l'état des constructions. Est-ce qu'il serait dramatique? Est-ce qu'il serait moins conséquent?
Les ingénieurs génie civil ont développé des procédures pour l'évaluation des dégâts sismiques attendus. Donc on fait des simulations. À partir des simulations concernant le mouvement sismique sur le site et ensuite sur les bases de données concernant les bâtiments existants. Et il y a un grand nombre de données qui sont nécessaires et ça fait que les résultats de telles analyses peuvent fournir des résultats différents en fonction de l'auteur, des scénarios considérés, des données et des modèles. La Roumanie, en tant qu'État membre de l'Union européenne, a dû préparer une analyse multirisque, y inclut le risque sismique, pour la présenter à l'Union européenne, pour préparer les grands scénarios pour que l'Europe possible. Fait face en solidarité, disons, aux différentes situations qui peuvent apparaître. C'est l'inspectorat général pour les situations d'urgence en Roumanie qui a eu la coordination de ce grand projet appelé RORISC. Il y a des résultats qui ont été présentés même dans les...
Ça sur l'ensemble de la Roumanie?
Dans les Ménias.
Pas seulement pour Bucarest?
Oui, pour l'ensemble de la Roumanie. Il y a aussi d'autres évaluations qui ont été faites. Moi, je ne vais pas entrer dans une réponse quantitative. Je ne vais pas vous dire des chiffres. Je préfère regarder les choses un peu de façon qualitative, peut-être aussi plus accessible pour nos écouteurs. C'est vrai, moins spectaculaire. Donc, si jamais on prend le scénario d'un séisme similaire avec celui de 1977, ce scénario n'implique pas seulement la magnitude, mais aussi la position. Ça veut dire la profondeur où le séisme se produit et la position par rapport à Bucarest. Est-ce qu'il est plus loin ou plus proche, etc. Ça a une forte influence. Donc, si jamais on prend un scénario vraiment similaire, tous les modèles, toutes les analyses disent que probablement on aura plus de dégâts et plus de victimes. Et maintenant, quelles sont les raisons? Tout d'abord, on parle d'une exposition qui est supérieure. Ça veut dire la société s'est développée, on a beaucoup plus de population maintenant.
Plus de densité, oui.
Plus de densité, on a beaucoup plus de constructions. Et si on parle des constructions, les constructions d'avant 1977 sont en grande majorité encore autour de nous. Donc, elles sont plus âgées, peut-être pas dans le meilleur état d'entretien, et elles ont subi les effets successifs des séismes du passé. Parce qu'on a eu un tremblement assez fort en 1986 également, et encore deux en 1990.
Donc, qui ont fragilisé.
Oui, qui y a un effet qui est le plus souvent invisible à l'œil du grand public.
Excuse-moi, je vous interromps un instant, Monsieur Aldea. Quand vous dites que la plupart des immeubles avant 77 sont toujours là, si on parle de Bucarest, quels sont les immeubles qui sont tombés ou qui se sont fortement dégradés alors lors du tremblement de terre? Est-ce que c'est ceux plutôt construits dans les années 30, style art déco? Est-ce que ce sont ceux construits dans les années 40, début des années 50, oui, pendant le régime communiste?
Très intéressante question, et peut-être qu'on revient sur ça avec un plus de détails sur votre question. Mais avant, je veux juste compléter un peu quelque chose. On a ensuite les constructions après le séisme de 1977. On ne peut pas dire que toutes ces constructions sont parfaites et qu'il n'y aura aucun dégât. Et quand on parle d'un dégât, même s'il est moins important, ça veut dire que ça peut produire des pertes économiques et peut-être aussi des victimes. Donc, la conclusion, c'est que ça ne va pas être mieux qu'en 1977.
Et il y a eu une prise de conscience après 1977,
oui,
et véritablement des normes de construction,
oui,
qui ont été mises en place pour toutes les nouvelles constructions. Donc,
ça, c'est... On avait déjà des normes des réglementations parasismiques à partir de 1963. Elles ont été améliorées en 1970 et ensuite, tout de suite après le séisme, en 1978, on a changé la réglementation. Et encore une fois en 81, et après les séismes de 86 et 90, on a de nouveau changé en 92. Donc, c'est une réaction normale de la société, de la communauté scientifique et des ingénieurs de refaire, de changer, d'améliorer les règles de conception en tenant compte des données qu'on obtient lors des séismes, mais aussi du développement de la science parasismique autour du monde, bien sûr. Les ingénieurs n'ont pas disons des douanes politiques. Ouais. La science, elle est la même partout et tout le monde partage. En revenant un peu à votre question, donc si à un certain moment un séisme similaire ou plus fort arrivera, et ce n'est pas important quand, on aura des problèmes, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on soit bien préparé. Et ça fait le lien avec votre question sur quelle est la réaction de la société. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être bien préparé? On prend soin du bâti existant. Ça veut dire on doit
on
faire...
On prend soin, pardon, du
bâti existant.
Oui, du bâtiment, d'accord, oui.
De l'ensemble des constructions d'accord. qui existent déjà. On essaye de faire l'évaluation sismique, si c'est nécessaire de la réhabilitation sismique. Parfois, on fait complètement un remplacement. On démolit, on refait tout neuf. Et bien sûr, l'État devrait se concentrer sur les bâtiments publics. C'est ça, finalement, sa responsabilité. Mais une particularité de la Roumanie, c'est que nous avons une législation qui aide aussi les propriétaires privés. Donc, on donne des financements pour l'évaluation et ensuite des conditions très, très bonnes pour financer la réhabilitation sismique. Du point de vue personnel, je dirais que c'est quelque chose un peu inhabituel parce que, prenons l'exemple des automobiles, est-ce que l'État nous paye l'inspection technique périodique? Non. Ça veut dire l'évaluation de notre automobile? Non. Et si jamais il y a un problème, c'est l'État qui paye pour la réparation, pour la... Non. Pourquoi l'État ferait ça? Des fonds publics pour les bâtiments qui sont privés.
Mais parce que ça, c'est les conséquences, peuvent être dramatiques.
Oui, c'est exactement la vision qui existe au niveau des autorités publiques en Roumanie. C'est ce sens de responsabilité sociale. Et voilà, donc, heureusement, l'État roumain a créé une... législation dans ce sens, et il y a même des choses qui ont été faites. Bien sûr, il n'y a pas le rythme que le grand public désire, il n'y a pas un très grand nombre de réalisations dans ce sens. Mais si on regarde le domaine public, on découvre qu'il y a un nombre important d'écoles, de lycées, de bâtiments universitaires qui sont passés avec des fonds publics, par la réhabilitation sismique, et qui maintenant sont dans un bon état.
Donc le problème, la question est plutôt concernant les bâtiments, les immeubles privés, et d'ailleurs on voit moins, je trouve, à Bucarest, ces fameuses la boulina, donc ces panneaux circulaires rouges qui indiquent le risque sismique des bâtiments. Il y a un peu une controverse par rapport à ça aussi. Parfois, ils sont enlevés pour mieux louer l'immeuble, les appartements, ou mieux les acheter. Donc, ça, c'est encore un souci, ça, de bien contrôler les bâtiments qui sont en propriété privée.
Oui. Donc, il faut que les propriétaires demande et désire aussi l'évaluation et la réhabilitation.
Est-ce que c'est surtout un problème à Bucarest ou alors ça touche les autres villes de Roumanie?
Ça touche aussi d'autres villes de Roumanie. La législation est nationale, mais c'est vrai que Bucarest concentre le gros du problème vu le nombre de bâtiments anciens aussi avec certaines caractéristiques. Maintenant, il y a évalué toutes les constructions d'un pays. C'est un travail énorme. Il n'y a pas un corps technique qui est capable de faire tout ça. Et récemment, notre université a préparé pour le ministère une réglementation pour l'évaluation rapide des structures. Donc, un sort de premier tri. On a des critères associés à une inspection visuelle pour arriver à faire un sort de classement et une hiérarchie de priorité. Et seulement ceux qui seront considérés après une telle analyse comme dangereux, les plus dangereux, eux, ils seront la cible d'une évaluation avec, disons, plus détaillée.
Sur l'ensemble du pays, une évaluation rapide de ce genre, elle mettra combien de temps? C'est difficile à estimer.
Je n'ai pas une idée, mais ce que je sais, c'est que à Bucarest, la mairie a commencé cette action. On a déjà des premiers résultats. Même des étudiants de notre université ont fait cet exercice. Finalement, ce n'est pas un exercice, c'est quelque chose de réel. Mais ils sont allés sur le terrain, ils ont complété des fiches et ensuite il y a eu tout un processus d'analyse.
Alors ne serait-ce qu'en regardant en analysant de loin et aussi de près, mais sans rentrer nécessairement dans le bâtiment, on peut voir depuis l'extérieur, on peut faire cette première analyse rapide.
On peut faire. Pour les grandes choses qui comptent, on peut recueillir pas mal d'informations.
C'est en voyant des fissures, quels sont les critères?
On essaie d'identifier tout d'abord l'âge, le matériau de construction de la structure de résistance.
Et ça se voit tout de suite.
Le système de la structure de résistance, c'est un bâtiment en cadre ou en voile. Est-ce que c'est en béton, en métal? Quel type de contreventement, etc. Tout ce type de détails. Ensuite, c'est l'auteur du bâtiment qui joue un rôle aussi. Et bien sûr, son état. Donc,
l'entourage du bâtiment est vérifié? Est-ce que des fissures au sol, par exemple, peuvent être une indication ou pas vraiment?
Non, parce que les fissures au sol peuvent avoir une multitude d'autres causes. D'accord. Et aucun lien avec le séisme. Mais bon, votre question est très pertinente parce que ce qui se passe avec un bâtiment est le résultat caractéristiques de deux
phénomènes.
Pas phénomènes, comment dire ça?
De fractures ou...
De deux éléments qui entrent dans l'analyse. D'un côté, c'est le bâtiment lui-même, avec ses caractéristiques, et ensuite, c'est le mouvement du sol qui sera l'agresseur de ce bâtiment avec ses caractéristiques. Et il y a une variabilité naturelle du mouvement sismique, même à petite échelle. Quand il s'agit d'une telle situation, on parle de microzonage sismique pour voir quelle est la variabilité spatiale du mouvement sismique dans une ville. Et puisque nous sommes chez Radio France Internationale, ça me fait toujours plaisir quand il y a un public francophone de rappeler le fameux séisme de Nice 1877, quand un ingénieur roumain, un diplômé de l'école de mines de Paris, était sur place et il a vécu ce séisme. Il s'est promené dans la ville et il a fait cette observation concernant l'influence des conditions du sous-sol. Il a observé que les bâtiments qui étaient sur un rocher plutôt dur, comme du calcaire, ont moins souffert que celles qui étaient sur un seul meuble. Et c'était une des premières observations, disons, scientifiques. et objective sur l'effet des sites et l'impact sur l'endommagement des constructions. Donc, merci pour m'avoir donné l'occasion de rappeler ces,
merci de ce rappel.
Ce témoignage.
Merci de ce rappel. Et pour revenir à notre conversation donc avant cet enregistrement, moi, ce qui ressort beaucoup de ce que vous me disiez, c'est que il est très difficile de prévoir si un bâtiment, enfin je parle des bâtiments vieux ou relativement anciens, tiendront ou pas, parce que ça dépend du tremblement de terre, ça dépend de la faille, ça dépend, ce que vous disiez au début, de la profondeur du tremblement de terre. Et donc on ne peut pas dire nécessairement qu'un immeuble des années 30 qui a l'air bien solide tiendra le choc, parce que c'est quand même très aléatoire. Il n'empêche que aujourd'hui. Donc vous confirmez ce que vous me disiez. Aujourd'hui, 2024, est-ce que toutes les constructions, propriétés privées, évidemment publiques, mais je pense surtout aux propriétés privées, quand je vois ces grands bâtiments qui se construisent, que ce soit au sud, à l'est, ou à l'ouest, ou au nord de Bucarest, et qui font plusieurs étages, est-ce que tous suivent de façon très stricte et il n'y a pas de question à se poser sur la façon dont ils suivent donc ces règles antisismiques.
Si vous me permettez, je vais diviser ma réponse en deux directions. Tout d'abord, je vais parler un peu plus sur les constructions anciennes et surtout sur ces bâtiments art déco, comme vous les avez appelés. Et ensuite, je vais revenir sur l'approche concernant le bâti neuf. Comme vous avez mentionné, il y en a des bâtiments anciens qui se sont bien portés, mais il ne faut pas oublier que dans la même catégorie, il y a eu des bâtiments qui se sont complètement effondrés,
qui ont été construits la même année et qui se sont effondrés.
Des tragédies. Donc, comme on disait, l'endommagement est le résultat de la combinaison des caractéristiques de la construction et du mouvement sismique. Et ces informations présentent une très large variabilité, ce qui fait que c'est impossible de donner des verdicts précis. Celui-là, on est sûr à 100% qu'il va tomber. Celui-ci, il n'aura rien. Ou il aura seulement quelques fissures. On n'est pas en mesure de donner de telles réponses. Et la seule façon de prendre en compte toutes les incertitudes est d'utiliser une approche probabiliste. Les résultats que les ingénieurs peuvent donner suite à une analyse de l'endommagement potentiel des structures est un résultat en termes de probabilité. Quelle est la probabilité que le bâtiment se retrouve dans un certain état d'endommagement? Et on a des probabilités discrètes pour être dans l'état d'endommagement complet ou dans un état d'endommagement modéré ou léger ou même sans endommagement. Ça dépend de notre analyse et de combien de catégories d'endommagement on veut considérer. La somme de ces probabilités, elle est égale à l'unité. L'unité, en probabilité, c'est l'événement certain. Et nous, on divise cette certitude en quelques morceaux. On peut, donc, le résultat sera, oui, en principe, ce bâtiment a des chances plus importantes que l'autre
d'être... Suivant différents paramètres, tous les paramètres que vous aurez
d'être
pris en compte.
D'être plus endommagé etc. Et donc, si on parle d'un bâtiment ancien, ça nous fait penser tout d'abord à l'âge et... Quand on parle de l'âge, on pense aux règles de construction en général et aussi de construction parasismique. Les bâtiments de ce Bucarest moderniste des années 30 ont été conçus sans aucune considération de l'action sismique. C'était le poids propre et la charge utile, ça veut dire les hommes, les meubles, etc. Mais pas de force sismique considérée. Donc, évidemment qu'ils sont des candidats à souffrir, mais il n'y a pas une garantie que toute cette catégorie de construction sera par terre. Il y aura un pourcentage qui va beaucoup souffrir et qui va produire malheureusement aussi des gains importants, des pertes économiques et des victimes, mais pas tous. Ensuite, il y a aussi le matériau de construction. L'industrie des matériaux de construction s'est énormément développée. Donc aujourd'hui, presque tout est industrialisé. Il y a un contrôle de qualité beaucoup meilleur par rapport à 1920 ou 1930.
Et le ciment d'aujourd'hui n'est pas le ciment d'hier.
Exactement. Donc, tout ça fait que le bâti ancien est évidemment plus vulnérable que les constructions plus récentes. Donc ça, c'est un des... Ensuite, il y a bien sûr l'entretien. Il y a l'effet cumulé de différentes actions extérieures. On a eu des bombardements à Bucarest dans la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on a eu des séismes pendant un siècle qui ont frappé ces bâtiments. Et donc, parfois on voit les effets de ces séismes, parfois on a fait des réparations locales, parfois on a fait des interventions plus ambitieuses mais pas vraiment complètes. Et donc, il y a une multitude de situations dans lesquelles ces bâtiments se retrouvent.
Et vous observez aussi l'action du vent ou de la neige, hein,
Peut-être on revient sur ça, c'est moins important, ça pose...
D'autres types de problèmes.
D'autres types de problèmes. Et je reviens maintenant à votre question et votre inquiétude, peut-être, je peux la sentir, concernant les bâtiments nouveaux. Et ici, je dirais que la Roumanie a un bon système législatif et de bonnes procédures pour protéger, disons, l'utilisateur final, le bénéficiaire. Parce qu'on commence par les réglementations. Les réglementations sont harmonisées avec les réglementations européennes. Ça veut dire que nous avons des réglementations qui sont au niveau international de pratique autour du monde. Et le projet qui est préparé dans un bureau d'études doit respecter les réglementations. Une fois que le projet est produit, il doit être vérifié par un vérificateur, un ingénieur vérificateur qui est certifié par le ministère du Développement. Donc il y a un corps de vérificateurs.
Ça pour attester. Tous les immeubles privés avant la vente des appartements.
Non, c'est obligatoire. On parle du moment de la conception.
Oui, de la conception. Mais je veux dire, au moment de la conception et avant la vente, quand l'immeuble est terminé, les appartements ne peuvent être vendus qu'après la certification technique.
Cette vérification, cette certification...
Elle est au début.
...se fait au niveau du projet.
D'accord.
On n'a pas encore fait la mise en œuvre. C'est au niveau du projet. D'accord. Donc, on vérifie que les calculs, la conception... sont de bonne qualité. Et ensuite, vient l'entreprise qui fait la mise en œuvre. Elle doit respecter le projet. Et pour faire ça, le chantier doit être surveillé par un gestionnaire de chantier qui est à son tour certifié par le ministère du Développement. Pas tous les ingénieurs génie civil sont soit vérificateurs ou soit gestionnaires de chantier. En même temps, en parallèle, il y a l'inspection d'État pour les constructions. C'est une institution qui est sous la tutelle du ministère du Développement et il y a un inspecteur qui devrait de temps en temps passer sur le chantier, vérifier que tout se passe bien et que les choses sont en conformité avec le projet. Encore plus, l'ingénieur qui a réalisé le projet, qui a fait la conception, doit venir sur le chantier dans certaines étapes importantes de la mise en œuvre pour s'assurer que tout est en ordre et que les gens sur le chantier respectent ce qui se fait. À la fin de la mise en œuvre, toutes ces parties, l'ingénieur du bureau d'études, l'inspecteur d'État, le gestionnaire de chantier doivent tous signer un document de conformité que tout a été en ordre. Encore plus, les fournisseurs des matériaux garantissent les caractéristiques et la qualité des matériaux qui sont utilisés. Le bénéficiaire, s'il a des doutes, ou l'entreprise qui fait la mise en œuvre, peuvent faire des tests sur les matériaux pour vérifier ce que le fournisseur dit. Et le bénéficiaire peut même, s'il veut, embaucher un ingénieur pour surveiller le chantier dans son intérêt. Ça se fait moins, mais si jamais il y a un manque de confiance dans l'entreprise qui fait, ou si l'investisseur est aussi le futur propriétaire, peut-être il veut avoir un représentant qui assure ça. Donc, c'est un système assez complexe. Maintenant, est-ce qu'il fonctionne? C'est la question. Évidemment, une erreur est toujours possible. Il y a une erreur volontaire ou pas volontaire. Parfois, on peut faire quelque chose sans le vouloir et ça passe sans être observé par les autres parties. L'idée, c'est que la certitude totale n'existe pas. Et il n'y a pas de contrôle absolu et total. Peut-être l'inspection de l'État n'a pas les ressources humaines pour vérifier à 100% tout ce qui se passe dans tous les chantiers et un peu près partout. Donc, c'est impossible de généraliser ou de culpabiliser, même comme ça arrive parfois dans les médias, intégralement, soit une période de construction, comme par exemple pendant le communisme, c'était mauvais parce que, je ne sais pas, quand on voulait cacher la réalité du grand leader du parti, où on avait un plan et on devait le faire, peu importe le prix en termes de qualité, ou pour dire, voilà, les constructions nouvelles sont sans aucun contrôle et c'est le chaos total et on ne fait pas confiance. C'est impossible de tirer une telle conclusion. Nous avons deux approches, je dirais, celle optimiste ou celle pessimiste. Si on est optimiste, on pense à la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans ce processus, et au sérieux, et bien sûr à toutes ces formes multiples de contrôle. Et alors, on va dire, ce sont de bonnes maisons et certainement elles vont se porter mieux que les autres qui étaient avant, pour les raisons qu'on a discutées concernant le bâti ancien et le bâti neuf. On peut avoir aussi la vision pessimiste. Je ne peux pas l'éliminer totalement. Le dieu suprême de la planète aujourd'hui, c'est l'argent. C'est l'avarie qui cause tant de problèmes et qui peut pousser des intervenants de ce processus à faire de mauvaises choses.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser dans la pratique, sans diaboliser les promoteurs immobiliers. Mais c'est vrai que pour faire un peu plus de marge, j'entends parfois que, par exemple, des cloisons d'appartements nouveaux seront plutôt fines et on entendra son voisin plus facilement que dans des immeubles anciens. Donc, on peut se poser la question sur la structure dans son ensemble. Mais votre discours, ce serait plutôt de dire que quand même, il y a une législation, des normes et des procédures qui, de façon générale, en ce qui concerne les grands immeubles aujourd'hui construits à Bucarest, ça se passe relativement bien. Est-ce qu'on peut dire ça?
Moi, je préfère être du côté optimiste. Plutôt optimiste. Les réglementations sont bonnes et l'État a toujours demandé de refaire les réglementations. Maintenant, on est en cours d'élaboration d'un nouveau code pour la conception parasismique qui sera peut-être disponible en 2025 ou 2026. Ça dépend aussi du ministère, comment la loi sortira. L'industrie des matériaux devrait fournir des choses de bonne qualité.
Mmh. Et puis votre science évolue.
En dehors de ça, comme je disais là, on n'a pas de certitude totale et ça dépend de chaque situation. Et...
Mais disons que ça va plutôt dans le bon sens.
Ça devrait aller.
Ça devrait aller dans le bon sens.
Moi, je comprends l'inquiétude, je dirais, générale. Et, moi et mes collègues, on se pose tous les mêmes questions, bien sûr. Et malheureusement, nous avons l'exemple triste de la Turquie, où c'est l'avarie des développeurs et des constructeurs qui a produit tant de problèmes. Les conclusions après le séisme de 1999 en Turquie, les conclusions reconnues même par les Turcs, c'était que les hommes ont tué plus que le séisme lui-même comme phénomène naturel.
Et puis celui
parce que c'était l'avarie qui a fait qu'on n'a pas utilisé les bons matériaux, qu'on a fait vite, qu'on n'a pas respecté le projet. Parce que les Turcs ont une bonne réglementation, ont des bons bureaux d'études, ont des bons ingénieurs, des bonnes universités, mais la mise en œuvre n'a pas été, bien
c'était,
sûr, notre système...
un milieu rural surtout, c'était surtout dans le milieu
des
rural.
Des constructions sans autorisation, sans rien.
Alexandre Aldea, on termine cet entretien, je voudrais, il y a une petite question qui me taraude quand même, sur concernant la centrale nucléaire de Tchernavoda. Là, il n'y a pas de souci.
De nouveau, je répète, c'est peut-être obsessif, le fait qu'il n'y a rien de certain autour de nous. Il y a un dicton qui dit que c'est les taxes et la mort, oui, qui sont certaines. Mais même si on réfléchit vraiment, il y a des gens qui ont trompé les taxes et avec la mort, on n'a pas... la même certitude dans toutes les cultures et on n'a pas de vérification. Donc, c'est la même chose avec la sécurité. Tout d'abord, la sécurité, qui implique aussi la qualité, coûte. On est habitué quand on parle de petits objets, on est habitué quand on parle de voiture ou de vélo. On paye plus, on a plus de qualité et de sécurité. On l'accepte un peu moins quand il s'agit de bâtiments. On aimerait acheter quelque chose qui est pas du tout cher, mais qui nous donne une très grande sécurité. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc l'État, ce qu'il fait par ses réglementations, c'est d'imposer un niveau minimal qui est associé à sa responsabilité sociale, un niveau minimal de protection, et ça se fait dans tous les pays du monde, pour les constructions générales. Quand il s'agit de centrales nucléaires, tout change. Et ici, il y a des réglementations nationales, mais qui sont toutes liées finalement à l'Agence internationale pour l'énergie atomique à Vienne. Donc, si notre centrale nucléaire fonctionne, ça veut dire qu'elle a reçu toutes les approbations de l'IAEA. D'accord. Et cette agence oblige les centrales nucléaires à faire en anglais on appelle Periodic Safety Review, une révision périodique de la sécurité qui implique le côté sismique, bien sûr, comme un danger important. Et pour ça, on fait une analyse probabiliste de l'aléa sismique et suivie par une analyse probabiliste du risque sismique. Ces études qui sont bien sûr faites par des entreprises assez spécialisées, des grandes boîtes américaines qui peuvent avoir des sous-traitants, comme notre université en a été à un certain moment pour la partie d'aléas sismiques. Mais l'agence internationale fait un examen très strict par les pairs, qui sont des experts internationaux de très haute réputation, qui révisent en détail, avec un maximum de responsabilité, tous les rapports et qui donne des conseils qui devient obligatoire. Donc, la centrale, si elle fonctionne, moi, je veux avoir cette,
Vous êtes bien placé pour le savoir parce que...
Cette tranquillité.
Ouais, vous avez collaboré avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Oui,
donc
oui,
vous savez de quoi
j'ai,
vous
j'ai vu le sérieux et bien sûr, si on a une vision totalement pessimiste de la vie, on va tout mettre en question, on ne va plus croire à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne croit plus au travail de cette agence internationale, à la responsabilité des gens à l'intérieur, à ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires et qui prennent soin. C'est un sort de chaos. Et, bon, la Roumanie en a seulement une, la France en a une cinquantaine, si je ne me trompe pas. Donc, moi, je suis plutôt positif. Mmh. Maintenant, l'événement improbable, la chose vraiment spectaculaire, inattendue, peut apparaître, mais avec de très très faibles probabilités. Et il faut dire qu'en termes de probabilité de ruine, par exemple, tout ce qui est du domaine nucléaire est des centaines de fois ou des milliers de fois plus strict que par rapport au bâti courant. Donc, la responsabilité sociale concernant les centrales nucléaires est bien
démultipliée, oui.
Comprise et, et prise en compte.
Alexandre Waldea, je vous remercie pour vos propos et l'objectivité de vos propos et je me sens relativement plus rassuré après tout ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'avais très envie après ce petit tremblement ce tremblement de terre qui a eu lundi 16 septembre comme je le rappelais. Donc merci. Merci infiniment et puis bonne continuation. On a besoin de vous, d'ingénieurs qui est resté en Roumanie pour nous protéger, notamment des risques sismiques. Merci beaucoup, Alexandre Waldea.
Merci beaucoup pour l'invitation et pour le sujet que vous avez choisi.
Un sujet essentiel. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end. Week-end Blackout, au revoir.
Le micro du soir, Aïchla RFI.